Voix étudiante, une mini-série du balado Adaptation qui donne la parole aux membres étudiants du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue au balado Voix étudiante. Je suis votre animatrice, Sonia Anvar, et aujourd'hui, je reçois Ariane Montminy, qui est étudiante à la maîtrise en psychoéducation et membre étudiante de l'équipe Agir, dirigée par Nadine Langteau. Avant d'arriver en recherche, Ariane a exploré différents chemins, autant académiques que professionnels, jusqu'à trouver un fil conducteur, une volonté de comprendre, puis de mieux soutenir les jeunes en difficulté. Dans cet épisode, on parle de fugue, de comportement délinquant, mais surtout de facteurs de résilience, de force et de l'espoir de changement pour des jeunes qui sont souvent vus à travers le prisme du risque. On discute aussi de ce que ça signifie, pour une jeune chercheuse, de porter une recherche qui donne voix à des jeunes encore trop souvent stigmatisés. Je vous souhaite une bonne écoute. Allô Ariane, merci d'être venue discuter avec moi aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, merci d'avoir pensé à moi pour parler de mon projet.
Oui, ben pour commencer, en fait, tu es étudiante en psychoéducation, tu es présentement à la maîtrise et je crois que tu termines, si je ne me trompe pas, tu as déposé tout récemment?
Oui, j'ai déposé tout récemment, là, il y a quelques semaines, mon projet de mémoire, fait que je suis maintenant en attente de ma soutenance de mémoire, mais oui, j'ai terminé officiellement.
Super, ben félicitations, c'est déjà une grosse étape de terminer. C'est ça, j'avais envie aujourd'hui qu'on parle un petit peu de ton projet de mémoire. Puis avant de commencer, peut-être un peu de ton parcours. Je sais qu'en pré-entrevue, tu m'avais mentionné que tu trouvais toi-même que ton parcours était un petit peu sinueux. Hein, tu as fait différents programmes avant de te rendre à la psychoéducation. Donc, si tu peux un petit peu me parler de ton parcours académique.
Oui, avec plaisir. Ben en fait, moi, c'est ça, j'ai un petit parcours un peu atypique, si on peut dire ça comme ça, là, contrairement, mettons, à certains collègues que j'ai qui étaient avec moi en psychoéducation. Moi, en fait, au cégep, j'ai fait sciences de la nature. Moi, j'ai toujours... la santé mentale m'a toujours intéressée, mais je voulais aller en pédopsychiatrie, fait que vraiment plus dans le domaine de la médicale. J'avais le côté chimie qui m'intéressait énormément, la bio et tout. Par contre, j'ai comme pogné la petite crise existentielle là, que certains pognent au secondaire, mais moi, je l'ai comme pogné quand je suis arrivée à l'université parce que je n'avais pas rentré en médecine. Puis j'ai fait comme « Ah, OK, qu'est-ce que je fais? » Tu sais. Finalement, tu sais, la médecine, c'était comme pas une option. Fait que là, je vais oh, OK. » Fait que tu sais, je me suis dirigée vers un autre programme en biomoléculaire, génétique. J'ai fait « Ah, OK, c'est pas pour moi. » Puis ça a été un peu un addon, la psychoéducation. Tu sais, je me suis lancée en psychologie, j'ai fait un certificat. Je me suis dit « Ah, crime, tu sais, je vais l'essayer. » Tu sais, le psycho, c'est souvent un peu quelque chose de général que les gens essaient en sciences humaines. J'étais comme, oh, tu sais, je devrais aimer ça. Finalement, je me rendais compte que c'était peut-être pas pour moi. Il manquait un petit peu de concret. Puis c'était comme un peu un addon, la psychoéducation, comme j'avais dit. Fait que j'avais une amie qui a fait ça, qui me disait, ah, mais ça, je te verrais là-dedans. Nanana. Fait que je me suis lancée un peu là-dedans à l'aveugle, comme on dit. Mais finalement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. J'ai trippé sur l'intervention, les cours qu'on avait. Puis j'ai pogné la piqûre un petit peu par la fin de mon bac là, pour la recherche. Là. Fait que ça a été ça un petit peu mon parcours. J'ai pas fait les sciences humaines bac maîtrise directement. Là, fait que ça ressemble pas mal à ça, mon parcours.
C'est ça, t'as découvert ça un peu par hasard, puis tu t'enlignais pas du tout sur la psychoéducation, en fait.
Non, exact.
Puis, t'as aussi travaillé sur le terrain pendant tes études, donc je pense que t'as été éducatrice en centre de réadaptation.
Oui, en fait, j'ai fait 2 ans en éducatrice à Val-du-Lac, là, au centre de jeunesse en Estrie, à Sherbrooke. Fait que j'ai fait, c'est juste ça comme expérience. Puis, tu sais, j'ai aussi travaillé avec la protection de la jeunesse, mais des jeunes en foyer de groupe. Fait que vraiment, souvent, c'est des jeunes qui soit ont été en unité, par exemple, puis que là, ont atteint un certain niveau de maturité ou d'autonomie autre qui leur permettent de vivre dans un autre milieu. Fait que, tu sais, c'était comme un peu le... J'ai fait, tu sais, mettons, les unités de réadapt, puis j'ai fait après un petit peu souvent, là. Fait que ça, c'était vraiment super le fun aussi. Fait que j'ai fait, là, ces 2 expériences-là sur le terrain.
Puis là, ton projet de mémoire porte sur les jeunes fugueurs, donc les jeunes qui, pendant un séjour en centre de réadaptation, vont fuguer. Puis, selon un rapport de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, ce serait 25% des jeunes placés en centre de réadaptation ou en foyer de groupe qui fuguent chaque année. Puis, ça me paraît être un pourcentage élevé. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne en centre de réadaptation pour les jeunes. Peut-être nous mettre un peu en contexte pour qu'on comprenne mieux pourquoi le taux de fugue est si important.
C'est certain que, tu sais, les jeunes qui sont hébergés en centre de réadaptation, il y en a beaucoup qui vont s'opposer à ce placement-là. Tu sais, pour certains jeunes, c'est comme, ah, non, je suis pas d'accord avec ça, je veux. C'est quelque chose qui est très cadrant aussi, quand même, les centres de jeunesse. Donc, tu sais, il y a une routine, il y a des tâches qui sont doivent être faites. Les jeunes ont un certain horaire auquel se soumettre. Puis souvent, c'est des jeunes, tu sais, qui sont pas en accord avec ça, qui peuvent aussi avoir été placés dans des centres de jeunesse qui sont un peu plus loin de leur, par exemple, en dehors de leur ville ou qui ont leurs amis, leur famille. Fait que c'est certain que, tu sais, un jeune, mettons, qui passe d'un milieu familial qui est un petit peu moins cadrant, par exemple, à l'institution plus des centres de réadaptation, qu'on veut leur offrir un encadrement, tu sais, sécuritaire pour qu'ils se développent, mais tout ça, souvent, ça peut faire un clash quand même pour ces jeunes-là qui sont habitués de faire un peu, des fois, peut-être qu'ils veulent ou, tu sais, qui veulent avoir des comportements qui, à l'extérieur, fonctionnent, tu sais, ça passe, mais qu'avec, mettons, dans les centres de réadaptation, ben, ça fonctionne pas. Ben, tu sais, il y a beaucoup de des jeunes peuvent avoir plusieurs motivations, par exemple, à fuir. Ça peut être de retrouver, d'aller voir des amis, de fuir un peu ce cadre-là, de retrouver un petit peu ce sentiment de liberté-là, par exemple, que des fois, ils peuvent avoir l'impression qu'ils ont plus nécessairement dans les centres d'adaptation. Fait tu sais, c'est sûr que ce taux-là, oui, en effet, le chiffre est haut, puis c'est quand même inquiétant, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs explications, plusieurs motivations à ces jeunes-là pour fuir, malgré qu'on essaye en centre d'adaptation de rendre leur vécu le plus positif possible, ben c'est certain que pour certains jeunes, c'est vu vraiment très négativement. Puis des fois, ça peut être ça qui peut peut-être les amener à pousser, à siguer davantage.
Mm-hmm. Puis, dans ton projet de maîtrise, tu explores les facteurs de résilience qui vont en fait peut-être influencer les comportements des délinquants chez les jeunes fugueurs. Parce que la fugue augmente aussi le risque de comportement délinquant, c'est bien ça?
Ben en fait, c'est pas nécessairement, c'est plus que certains jeunes lorsqu'ils vont se retrouver lorsqu'ils vont fuir, peuvent commettre certains comportements délinquants. C'est quand même un des comportements qu'on observe chez les jeunes qui vont fuir. Fait que, tu sais, les jeunes sont souvent hyper vulnérables quand ils vont fuir. Tu sais, des fois les fugues peuvent être planifiées, mais autrefois non. Tu sais, des fois ça peut être un jeune qui se réveille le matin qui en a assez, qui c'est comme ok, je m'en vais là. Tu sais, ça fonctionne plus là. Fait que des fois c'est hyper comme sur le go, sur le fly, comme on dit. Donc, ces jeunes-là, ben là, sont comme, OK, il faut que je me trouve une place où dormir, il faut que je me nourrisse, il faut que je réponde à mes besoins de base. Fait que, puis, tu sais, à l'inverse, certains jeunes vont aller retrouver d'autres, mettons, des pères qui peuvent avoir à l'extérieur, qui peuvent adopter ces comportements-là aussi, qui étaient des comportements qu'ils adoptaient, par exemple, avant de se retrouver en centre de réadaptation. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est que c'est surtout un peu le pourquoi que souvent les fugues et les comportements délinquants sont interreliés, en fait.
Ouais, c'est intéressant. Puis, qu'est-ce que tu cherches à mieux comprendre à travers ta recherche?
Ben moi, en fait, tu sais, je me suis toujours, en ayant travaillé avec ces jeunes-là, je trouve que dans la société, puis c'est très, on a quand même un biais sur ces jeunes-là. C'est surtout beaucoup des facteurs de risque. On va essayer de diminuer les facteurs de risque des jeunes. On va essayer de dire, ah, ben tel jeune a tellement vécu de choses, ben c'est comme, il est un peu destiné, des fois, à avoir une certaine trajectoire. Puis moi, ça m'a toujours comme dérangé. Moi, je me disais, c'est pas vrai, là. Tu sais, moi, j'en ai vu des histoires de des jeunes qui ont des super beaux facteurs positifs, qui ont juste jamais été mis à l'épreuve, qui ont jamais appris à développer ça. Puis moi, c'est là que je me disais, hey, non, là, moi, je sais que ces jeunes-là, qu'il y a du positif. Il y a quelque chose qu'on peut aller chercher chez ces jeunes-là. Puis, ben, tu sais, les comportements délinquants, justement, ben, c'est que je me disais, OK, c'est des comportements qui ont quand même beaucoup qui peuvent avoir plusieurs conséquences pour ces jeunes-là. Fait que je me disais, OK, ben, tu sais, c'est quand même important de trouver qu'est-ce qu'on peut mettre en place positivement, qu'est-ce qu'on peut aller développer chez les jeunes. Non réduire le risque, mais plutôt promouvoir des facteurs positifs qui vont leur donner un certain pouvoir d'agir sur OK, ben comme oui, je veux changer, oui, je veux essayer de diminuer ces comportements-là. T'sais. Fait que c'est vraiment ça, moi, que j'essaie de comprendre, puis c'est la résilience de ces jeunes-là au-delà de toute l'adversité qu'ils peuvent avoir vécue, par exemple.
Oui, c'est absolument. Donc, de mettre un peu l'accent sur leur force pour leur donner un pouvoir d'agir. Là.
Exactement.
Tu t'appuies sur le modèle de Van Breda pour étudier différents types de facteurs de résilience, des aspects individuels, dimensions relationnelles, environnementales. Qu'est-ce que ce modèle de résilience-là t'a permis de mieux voir dans les parcours des jeunes fugueurs?
Ben en fait, tu sais, dans la littérature, moi, dans ma recension que j'ai faite dans le cadre de mon mémoire, on observe surtout des facteurs plus au niveau, mettons, relationnel, puis plus, tu sais, quelques facteurs individuels aussi, mais on n'en observe pas beaucoup, puis c'est que le modèle de Van Breda observe un ensemble de facteurs, peu importe, vraiment général. Donc, autant des facteurs, comme tu l'as mentionné, au niveau individuel, au niveau relationnel, de l'environnement, puis vraiment des capacités des jeunes, puis tu sais, on observe comme 21 facteurs de résilience, qui est quand même beaucoup, puis ça donne un portrait super pertinent, comme un portrait plus général, puis pertinent pour les jeunes, parce qu'il y a tellement de systèmes qui naviguent autour de ces jeunes-là aussi, au-delà de juste les capacités individuelles de ces jeunes-là. Puis tu sais, c'est que le modèle de Van Breda permet justement d'en voir beaucoup, d'en étudier beaucoup, plus que, mettons, ce qui est dans la littérature actuellement, puis que moi, j'ai recensé, par exemple, dans le cadre de mon mémoire, qui visitait les auteurs, on évalue peut-être 3, peut-être 4 facteurs. Mais tu sais, c'est ça. Fait que le modèle de Vendredo m'a permis de voir vraiment un plus grand éventail de facteurs, en fait.
Puis comment, au niveau méthodologique, comment ça fonctionnait? Est-ce que tu présentais un questionnaire aux jeunes pour pouvoir évaluer ces facteurs de résilience-là?
En fait, la façon que ça fonctionnait, c'est sûr que moi, mes participants proviennent du projet, les projets 14-17, le projet FUG de Sophie Couture et ses collaborateurs. Fait que moi, j'ai pris des participants dans la grande banque de participants. J'en ai pris un échantillon. Puis en fait, c'est que les jeunes, dans la batterie d'entrevues, de tests que les jeunes ont à passer, ils font des questionnaires auto-rapportés. Puis le YERS, qui est dans le fond l'outil qui pour mesurer les facteurs de résilience, qui découle du modèle théorique de Vendredo, est passé aux jeunes. Donc les jeunes remplissent ce questionnaire-là, donc c'est comme auto-administré, fait que le jeune remplit lui-même le questionnaire, puis moi en fait, j'ai pris ces résultats-là, c'est comme les 21 échelles qui représentent les 21 facteurs de résilience, donc j'ai pris ces scores-là pour faire mes analyses un petit peu plus tard.
Puis justement, en faisant tes analyses, en explorant tes données, tu as observé des facteurs qui étaient positivement puis négativement associés au comportement délinquant pendant la fugue. Entre autres, peut-être un lien inattendu au niveau des activités sociales, si tu veux nous parler un peu de ça.
Ouais, en fait, tu sais, moi, c'est sûr que mon objectif, dans le premier temps, c'est de voir quels sont les facteurs qui sont associés, tu sais, au comportement délinquant chez cette population-là. Puis, tu sais, mon hypothèse, moi, était beaucoup de voir, OK, tu sais, considérant ce qu'on sait dans la littérature actuelle, mais moi, je m'attendais à ce que ces facteurs-là de résilience soient associés négativement au comportement délinquant. C'est-à-dire que plus on a tel facteur de résilience, moins on a de comportement délinquant. Mais, tu sais, c'était vraiment à ça que je m'attendais. Puis, dans le fond, j'en ai 7 facteurs qui ont été, qui sont trouvés, qui étaient associés au comportement délinquant. 6 sont associés négativement. Puis, comme tu mentionnais, il y en a un qui, un petit peu inattendu, a été associé positivement. Ça, il s'agit du facteur de résilience des activités sociales. Fait que oui, en effet, ce facteur-là, au début, il fait « Oh, OK ». Donc, c'est ça, c'est un facteur vraiment, tu sais, l'outil le décrit un peu comme les activités prosociales des jeunes. Par contre, ça, j'en parle un petit peu dans ma mémoire aussi, mais des fois, c'est que les questions qui sont posées aux jeunes peuvent peut-être laisser place un petit peu à l'interprétation. Tu sais, je pense à certains items qui sont, ben, j'aime faire des activités avec les autres. Je participe à des activités avec d'autres jeunes. Je fais partie d'un groupe social. Puis on sait, c'est surtout chez cette population de jeunes-là qui sont hébergés en centre de rétention, les fugueurs, des fois, on peut se poser la question, c'est quoi ces activités-là? Est-ce que c'est des activités structurées? Est-ce que c'est des activités plutôt non structurées? Tu peux poser cette question-là face à ça. Fait que c'est pas si surprenant, entre guillemets, parce que les jeunes qui vont faire des activités sociales, par exemple, avec des pères qui sont pas pro-sociaux puis qui sont à de nature délinquantes, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de comportements délinquants, tu sais. Mais c'est ça. Fait que ça a été un petit peu surprenant, en effet, mais comme...
ça t'a demandé de revoir peut-être un peu l'interprétation de sociale. Oui, je comprends.
Oui. Ouais, ça a été de lire un peu là-dessus aussi, parce que c'était comme un petit peu inattendu. J'étais comme, OK, comment je vais un petit peu expliquer ça? Fait que ça a été d'aller creuser un petit peu, là, mais ouais, c'est sûr qu'il y a cet élément-là, entre autres, qui fait que peut-être que ça peut un petit peu expliquer aussi ce résultat-là. Mm-hmm.
Puis, le deuxième objectif de ton projet, c'était d'évaluer si le sexe modère la relation entre les facteurs de résilience puis la délinquance. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là?
Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, comme je mentionnais, j'en ai eu comme 7 qui étaient associés. Moi, j'ai pris ces 7 associés-là. Je me suis dit, OK, est-ce que le fait d'être un garçon ou d'être une fille modère, en fait, cette association-là? Puis non, moi, j'ai rien trouvé au niveau significatif. Là. Fait que moi, pour les facteurs que j'ai observés associés au comportement délinquant, j'ai rien trouvé. C'est sûr que j'avais un petit échantillon quand même aussi. Donc, des fois, c'est d'un niveau de la puissance statistique, ça peut quand même être quelque chose à noter. Là. Fait que c'est sûr que il y a pas grand-chose qui avait été fait dans ce que j'avais recensé sur la différence garçon-fille. Puis, tu sais, les résultats étaient quand même un petit peu mitigés. Il y avait trouvé certains facteurs, mais tu sais, il y en avait très peu. Puis c'est des études qui étaient aussi longitudinales qui avaient été faites sur une plus longue étude. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre, mettons, avec ces résultats-là, mais c'est ce que moi, j'ai trouvé.
Mm-hmm. Puis, selon toi, ce serait quoi les retombées concrètes de ton projet pour les milieux de pratique? Parce que je pense que dès le départ, tu avais le souci de rendre ta recherche utile sur le terrain.
Mm-hmm. Tu sais, le pourquoi aussi, tu sais, tantôt, tu me parlais un petit peu de Vendredo, qu'est-ce qu'il a apporté de plus. Mm-hmm. Moi, c'est que c'est des facteurs qui sont concrets. Tu sais, quand je disais tantôt un ensemble de facteurs, moi, je voulais vraiment avoir du concret, là, pour les intervenants et les intervenantes, de me dire, OK, sur quoi on peut miser peut-être, qu'est-ce qui pourrait être une, tu sais, sans dire que c'est parce que c'est pas des liens, un lien causal que j'ai trouvé, bien évidemment, mais tu sais, je me dis, OK, il y aurait peut-être quelque chose, là, tu sais, que ce serait à aller exploiter davantage, à aller s'intéresser davantage, du moins. Fait que moi, je pense que ça me permet quand même d'avoir un portrait général aussi de ces jeunes-là, tu sais, qui n'avaient pas été faits nécessairement avant, qui étaient beaucoup plus isolés dans certains systèmes, par exemple. Ben moi, je me suis dit, OK, je vais avoir un portrait plutôt général, voir qu'est-ce qui peut être fait tant au niveau individuel, relationnel, environnement. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est quand même une retombée quand même importante. Puis, tu sais, c'est que c'est aussi des facteurs qui, pour moi, avoir travaillé avec les jeunes, tu sais, je sais comment ça fonctionne dans les unités, je sais que ça ressemble à quoi les programmations, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes. Fait que moi, j'avais le souci de me dire, OK, ben je veux trouver quelque chose de concret qui s'intégrait aussi au quotidien avec ces jeunes-là, sans être sur-demandant pour les éducateurs et éducatrices qui sont comme hyper sollicités dans ces milieux-là, qui sont souvent, et déjà que l'intervention peut être difficile aussi absolument auprès de cette clientèle-là, tu sais. Fait que moi, c'était surtout ça mon souci. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'avoir trouvé des... Je donne par exemple, tu sais, l'estime de soi, c'est un élément qui avait ressorti comme étant quand même fortement associé. Ben, tu sais, l'estime de soi se valorise quand même bien au quotidien. Donc, c'était d'essayer de trouver, OK, ben, on fait, d'essayer de développer cette estime-là chez les jeunes, de faire vivre des réussites, tu sais, au quotidien, de souligner les forces de ces jeunes-là. Fait qu'il y a plein de petites choses un petit peu comme ça qu'on peut faire au quotidien qui me dirait crime, tu sais, de, puis l'estime de soi, on s'entend que c'est quand même quelque chose qui peut avoir plusieurs bénéfices dans d'autres domaines aussi, au-delà de, mettons, associé à moins de comportement délinquant, c'est quelque chose pour les jeunes qui vont transitionner à la vie adulte éventuellement, qui vont devoir voler de leurs propres ailes, donc c'est quelque chose qui est hyper pertinent. Fait que je trouve que les facteurs ont une grande portée aussi, autre que juste limitée, par exemple, à la délinquance, là. Fait que
Ouais, c'est ça, comme on disait tantôt, peut-être c'est important de diminuer les facteurs de risque puis tenter de protéger, mais aussi de soutenir selon les forces des individus, puis c'est un peu ce que ton projet met en lumière, là.
Exact, ouais.
Je trouve ça super intéressant, en fait, de t'entendre parler avec enthousiasme de ton projet de recherche, parce que, comme tu mentionnais tantôt, tu pensais pas du tout être destiné à un parcours en recherche. Est-ce que tu aurais pensé, il y a quelques années, un jour déposer un mémoire de recherche? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a donné la piqûre pour enfin dire, OK, mémoire, puis aspect recherche, là.
Ma réponse à la première question, c'est non. J'aurais probablement pensé jamais faire un mémoire de recherche. J'ai toujours été quelqu'un qui adore l'école. J'aime ça aller à l'école. Moi, tout le temps, je suis payée pour aller à l'école toute ma vie. Probablement que j'adore ça. T'sais, j'aime apprendre. Puis, mais t'sais, un mémoire de recherche, surtout dans le domaine de la psychoéducation, j'ai comme non, jamais, non, ça se passera pas. T'sais, j'avais une vision très différente que j'ai d'aujourd'hui de la recherche. T'sais, quand on parlait au début, c'était comment la recherche, c'est tellement comme c'était comme pas concret, c'était pas, tu sais, moi je le voyais un petit peu comme des gens qui comme super intelligents, qui, mais tu sais, j'ai comme vraiment une vision différente aujourd'hui de la recherche, de toute la portée qu'on peut donner aussi, tu sais, à la recherche. Là, moi, j'ai eu la chance de faire plein comme de concret, de parler de mon projet, puis tu sais, oui, j'en parle avec enthousiasme parce que j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans, j'aime ça, j'adore ça, tu sais, mes directrices pourront témoigner, mais moi, la vulgarisation, j'adore ça, j'ai toujours aimé ça. Fait que c'est sûr que c'est ça. Puis tu me posais la question un peu, qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? C'est vraiment quand j'ai commencé à travailler comme auxiliaire, en fait, pour le projet de ce futur, là. Fait que le projet 14-17, j'ai commencé vers la fin de mon bac. Ça va faire 3 ans et quelques que je suis dans le projet quand même. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. D'aller voir les jeunes, d'avoir une relation différente avec les jeunes, tu sais. Moi, je rencontre encore des jeunes dans le cadre de mon job d'auxiliaire. Tu sais, je fais des entrevues avec eux. Puis c'est comme un autre lien qu'on a avec eux. Tu sais, je suis plus dans mon rôle d'intervenante, mais je suis dans un rôle de vraiment auxiliaire, de parler avec ces jeunes-là qui me racontent un peu leur histoire, puis je trouvais ça le fun. Puis j'étais comme, crime, OK, je fais quand même parler ces jeunes-là, je leur donne une voix. Fait que c'est quand même un petit peu dans l'intervention aussi. Tu sais, je voyais ça vraiment différemment. J'avais un lien, tu sais, avec ces jeunes-là quand même. On avait une interaction. Donc, c'est de là. Puis je te dirais que quand j'ai décidé que moi, c'était vraiment la résilience qui m'intéressait, puis c'était vraiment... Quand j'ai une idée, moi, dans la vie en général, je suis très... Je veux que ça se réalise, puis je vais mettre les choses en place pour que ça arrive, là. Fait que j'ai fait, OK, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, ça me fait triper, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce qui ressort de ça, puis c'est sûr qu'il y a quelque chose, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment pogner la piqûre, c'est de trouver le sujet qui me faisait un petit peu vibrer, puis qui fait que j'en parle aussi enthousiastement aujourd'hui.
Oui, c'est ça, on ressent bien ton enthousiasme, puis je pense que l'aspect de voir une perspective directe d'impact sur le terrain t'a motivé à la recherche, finalement, là.
Exactement.
Mais ton projet, veux pas, tu touches quand même à une population qui est quand même assez vulnérable. Je suis curieuse de savoir comment tu vis ça ou peut-être comment tu as vécu ça justement pendant les entrevues, la dimension émotionnelle de ta recherche avec un sujet aussi chargé humainement.
C'est certain que je pense que d'avoir des bases en intervention, moi, ayant eu comme des contacts avec cette clientèle-là avant, d'avoir des bases en intervention, je pense que c'est un petit peu essentiel, surtout dans un contexte aussi humain de recherche qui est de tu sais, puis les jeunes souvent vont nous raconter leurs épisodes de fugue, qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis c'est pas toujours quelque chose qui est le fun à entendre et le fun à process, puis pour les jeunes, c'est difficile aussi des fois d'exprimer ces choses-là, fait que c'est vraiment de faire preuve d'écoute avec ces jeunes-là, puis de voir ça plutôt comme un « Hey, c'est une opportunité pour lui de nommer ça, de l'exprimer », puis souvent, tu sais, les jeunes, ça leur fait un lieu, puis ils comprennent que leur voix a une importance. Ces jeunes-là, c'est comme « Hey, tu sais, ce que j'ai vécu peut servir à quelque chose », puis souvent, c'est beaucoup comme ça que je l'amène aux jeunes quand je leur présente le projet, tu sais,
ouais,
c'est un espace pour eux. Que c'est un espace pour eux, que justement leur voix, et moi j'aime ça, je cherche le mot en français, mais leur voix matters, là, leur voix est importante, leur voix, tu sais, fait que c'est comme ça que je le vois, qu'ils peuvent permettre de faire avancer peut-être les choses, de voir c'est quoi leur perspective face à ça, fait que je pense que c'est beaucoup de la porter comme ça, puis les jeunes souvent sont, en tout cas moi j'ai que eu des jeunes qui étaient super enthousiastes à participer, j'ai vraiment eu des belles expériences avec les jeunes, que les autres auxiliaires avec qui je parle, c'est un peu ça aussi, les jeunes sont souvent enthousiastes à parler de ça, ils sont contents, tu sais, de prendre leur
oui, de sentir justement qu'on leur donne une voix puis que leur voix va être portée puis possiblement avoir un impact par la suite. Là. Ah oui, absolument.
Exactement.
Puis là, on parlait du fait que tu pensais pas un jour faire de la recherche, mais tu pensais pas non plus travailler avec des jeunes en fugue, en fait, avec une clientèle adolescente. Ça aussi, c'était inattendu. Si tu veux un peu nous parler de ça, à savoir qu'est-ce qui t'a finalement accroché au point que tu y consacres ton mémoire et ton travail d'intervention?
Oui, en effet, moi, en plus du parcours qui est pas atypique en scolaire, ben j'ai la clientèle qui change aussi de. C'est ça, c'est moi, j'ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées. Avant, ça a été toujours ma clientèle de chouchou. Dès que j'étais jeune, j'ai fait du bénévolat avec les personnes âgées. J'ai fait mon stage en première année avec les personnes âgées. J'ai travaillé où j'ai fait ça aussi. Tu sais, fait que ça a toujours été ma clientèle chouchou. Ça l'est encore d'ailleurs. J'adore, j'aime ça les personnes âgées. Puis j'ai plus comme le temps de faire autant de bénévolat. Puis ça me manque un petit peu face à ça. Mais les jeunes, ça s'est encore une fois un peu tombé sur un addon. Moi, je me disais tout le temps comme, hey, les jeunes, comment je vais créer un lien avec eux autres? Tu sais, je trouvais que c'est une clientèle qui peut être difficile un petit peu d'approche dans un premier temps parce que ils ont tellement vécu de choses, ils ont tellement comme vécu l'adversité, ils peuvent avoir une certaine réticence. J'étais comme, comment je vais faire, tu sais, pour créer un lien avec eux? Comment je vais faire pour être capable d'avoir une relation, je cherche mon mot, mais une relation.
D'aide.
Thérapeutique, ouais. C'est ça, je cherchais le mot thérapeutique avec eux. C'est comment je vais faire, moi, pour aider ces jeunes-là? Comment je vais faire, tu sais? Fait que c'est beaucoup ça, je pense. Puis, je me suis un peu lancée là-dedans, à Val-du-Lac, quand je me suis trouvée une job d'éducatrice. C'était comme un peu pas la seule chose qui s'offrait à moi, mais c'était dans les choix. Puis, j'étais comme, hey, comme, sais-tu quoi? On se lance, on va voir, tu sais. Puis, je peux pas dire que j'aime pas ça si on l'a pas essayé, t'sais. Fait que c'est un peu comme ça, je me suis lancée. Puis, contre toute attente, ben c'est vraiment avec cette clientèle-là que j'ai eu la facilité à créer des liens, que j'ai été capable de faire l'intervention, d'aider certains jeunes. Tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais j'ai quand même vécu des super beaux moments, super bénéfiques. Puis il y a des jeunes qui ont comme un petit peu dépassé mes attentes. Fait que j'ai vécu vraiment des belles victoires aussi avec certains jeunes. Donc ça a vraiment cliqué. Puis c'est depuis ce temps-là que puis c'est une clientèle. Tu sais, je parlais des personnes âgées un petit peu tantôt, mais tu sais, des clientèles plus marginalisées un petit peu. Ça a toujours été des clientèles qui m'intéressaient, qui sont des fois peut-être un petit peu étiquetées par la société ou qui sont un petit peu mises de côté. Ça a toujours été mon intérêt aussi. Fait que je pense que ça venait rejoindre un petit peu ça, mais c'est vrai que passer des personnes âgées comme aux adolescents à héberger, c'est un switch 360, maintenant.
Oui, c'est ça. C'est assez différent comme clientèle. Puis là, est-ce que tu envisages de poursuivre au doctorat?
Oui, j'envisage le doctorat éventuellement. Je suis un petit peu encore, tu sais, j'ai quand même des opportunités en intervention, tu sais, où j'ai fait mon stage de maîtrise, en fait, là, je commence à travailler comme psychoéducatrice aussi, fait qu'au niveau professionnel, j'ai quand même des projets aussi, mais c'est certain que le doctorat est dans mes plans aussi, à questionner est-ce que ça va être là, est-ce que ça va être comme dans un an, est-ce que c'est sûr que je vais finir par le faire, j'adore la recherche, mais tu sais, mon intervention, je l'adore aussi, fait que j'ai une petite bébite qui garbure aux deux, j'ai l'impression, là, fait que c'est un petit peu difficile de pas de jongler avec tout ça aussi, fait que c'est un peu de trouver ma place, tu sais, là-dedans, Mais c'est sûr que oui, le doctorat est dans mes plans éventuellement.
OK. Bien, un grand merci à toi, Ariane, pour ce partage généreux et inspirant. Puis je vais te souhaiter autant de succès puis de passion pour la suite.
Merci beaucoup. C'était super le fun de pouvoir parler de ça puis de partager. Fait que merci à toi de m'avoir reçu.
Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du GRIZE, rendez-vous sur notre site web au www.grize.ca. Suivez-nous aussi sur Facebook et LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À l'animation, à la recherche et à la production, Sonia Envard, et au soutien technique, le studio Balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.